Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça c'est de la vue!
Ah, c'est magnifique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Amérique du Sud, en road trip. Mais je t'y emmène de façon assez particulière, puisque aujourd'hui je suis avec Fiona Malaguti, qui en fait a fait ce trip tout en étant atteinte de la mucoviscidose. Et elle a voulu prouver qu'en fait c'était largement possible de faire des choses incroyables, même si on est atteint d'une maladie très particulière. Elle a fait des choses vraiment dingues durant ce voyage et elle est là pour nous en parler. Salut Fiona, comment ça va?
Salut Alex, et ben ça très bien, très content d'être ici.
Tu m'étonnes, surtout qu'on va parler de l'Amérique du Sud, mais là tu redescends fraîchement du haut du Mont Blanc, c'est ça pour la déconne?
Voilà, c'est ça. J'étais hier, mes jambes s'en rappellent bien encore, je pourrais t'assurer que là, c'est difficile de descendre les escaliers.
C'est comment là-haut? C'est sympa? Ça ressemble à quoi?
C'est assez magique d'arriver là-haut. Pour la petite anecdote, moi, je ne suis pas arrivée au sommet, j'ai dû m'arrêter un peu avant. Ouais. J'avais un manque d'oxygène et des petits symptômes de mon corps qui m'ont fait dire « Oh, ce serait bien que tu redescendes là, c'est un peu limite ». Mais bon, j'ai quand même pu avoir un très beau panorama avec un lever de soleil assez magique.
Ça ressemble à quoi là? Pour des gens qui feront jamais d'alpinisme et qui monteront jamais là-haut, est-ce que si tu devais faire une petite peinture impressionnisme auditive, ça ressemble à quoi là-bas?
Alors déjà, tu pars de nuit souvent, donc avec la frontale. Ouais. Donc t'as pas trop de repères visuels à part les cordées qui vont être passées devant toi et du coup les petits points lumineux que tu vois au loin.
Ah oui, bah t'es pas tout seul.
T'as souvent du vent et puis tu marches avec des grosses chaussures d'alpinisme assez rigides sur lesquelles tu rajoutes des crampons. Et donc voilà, tu marches comme ça dans la neige. Nous en plus, il avait neigé toute la nuit, donc la neige était plutôt fraîche.
Là, en plein mois de juin?
Ouais. Il y a eu pas mal d'orages dans la vallée. Du coup, quand on dort à 3800, bah, c'est de la neige en fait qui est tombée. Et je ne saurais pas te dire combien de centimètres, mais il a neigé vraiment plusieurs heures. Donc, les traces de la veille étaient presque effacées.
Et du coup, c'est combien de temps d'ascension du camp de base de 3008 à 4807 mètres?
Alors, le camp de base, il est même encore plus bas. Il y a un autre refuge qui s'appelle Tétrousse, qui est presque à 3200.
Okay.
Et le refuge du Goûter, où il y a beaucoup qui font le départ du Mont Blanc depuis ici, il est à 3008. Donc en soi, il te reste que 1000 mètres de positif,
ouais.
Mais à cette altitude, ça, c'est costaud quand même.
Et en général, c'est quoi la moyenne des gens? Pas les plus sportifs, mais des gens...
Je crois que la moyenne, ils disent 4 heures à peu près. Donc moi, je tablais au moins sur 6 heures pour y arriver.
Ouais.
Et ouais, c'est à peu près ça.
Ça te fait 12 heures aller-retour.
Il faut tout redescendre.
Ah ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est pour ça que tu pars si tôt
aussi. Au Goûter, tu redescends tout en bas.
Ah, tu redescends en plus au camp de base, tu redescends pas au refuge.
Tu redescends même jusqu'à... là, on est parti de 1800. En fait, tu fais 3000 de dénivelé.
Ouais, et du coup, ça valait le coup ou pas? Ça vaut le coup?
Ah bah oui.
Ouais.
Non, mais c'était génial. Puis le projet en soi était assez dingue. On est parti donc avec mon association Muco Sans Frontières.
Ouais.
Il y avait d'autres personnes atteintes de mucoviscidose.
Ah, génial.
Qui, elles, y sont arrivées d'ailleurs.
Génial.
Ouais, Leslie et Louis ont réussi à atteindre le sommet, donc gros big up à eux. Et voilà, c'était surtout pour passer un beau message, évidemment.
Justement, ben, tu disais que toi, justement, tu n'as pas pu aller au sommet parce que ton corps t'a dit justement « calme-toi, Fiona ». Est-ce que tu peux expliquer simplement ce qu'est la mucoviscidose?
Oui, bien sûr. C'est une maladie génétique. C'est la plus fréquente des maladies génétiques rares.
Chiant.
En France, C'est pour
c'est
ça
pas un bon critère.
C'est pour ça qu'on fait ces petits projets pour essayer d'en parler, en fait. Mettre un coup de projecteur sur cette pathologie que les gens identifient, surtout grâce à Grégory Lemarchal,
ouais,
qui a beaucoup médiatisé du coup cette pathologie quand il a fait la Starac,
ouais,
en 2004. Et en fait, du coup, donc, c'est une maladie qui touche les voies respiratoires, donc principalement les poumons, et aussi le système digestif. Donc,
okay,
y a ton pancréas qui a du mal à assimiler les aliments.
Okay.
Et du coup, tout ce qui est vitamines, nutriments.
C'est la galère.
Et ce qui va ensuite.
À générer des carences, du coup, aussi.
Ouais. On est supplémenté, du coup, en vitamines.
Ah ouais.
Pas mal. Enfin, c'est pas mal de médicaments à avaler à chaque repas. C'est à peu près une dizaine.
À chaque repas.
Pour permettre de. Ouais.
Et tous ceux qui sont atteints de la mucoviscidose. Où il y a des degrés un peu quand même.
On n'a pas tous la même atteinte, non, on est tous différents. C'est un peu, c'est la particularité de cette pathologie, c'est qu'on est, je crois qu'il y a des milliers vraiment de mutations génétiques différentes, même si on a tous le même nom, notre mucoviscidose, on a des atteintes complètement différentes. Et donc voilà, le côté digestif, il y en a qui vont être plus prononcés par rapport à d'autres. Pareil pour le côté respiratoire. Mais voilà, on est obligé d'en prendre des médicaments à chaque repas parce que sinon, on mange, mais on n'assimile rien. Tu vois, c'est comme si c'était un tube tout droit, quoi.
Ouais,
donc, pas très intéressant pour l'énergie et puis pour l'état de santé, on va dire. Et le côté respi, en fait, c'est qu'on a un mucus qui est présent chez tout le monde, sauf que chez nous, il est plus épais et plus visqueux, d'où mucoviscidose. Et il stagne dans nos bronches et nous empêche en gros de respirer normalement.
Ouais, t'as un peu de la boue, t'as un peu de la colle dans les poumons en fait, c'est ça?
Ouais, c'est un peu une texture vraiment du miel, tu vois, vraiment le truc que t'as du mal à décoller. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait des séances de kinésie respiratoire quotidienne, voire même plusieurs fois par jour selon les patients.
Ah ouais.
Et pour nous permettre d'expectorer tout ça.
Attends, mais c'est quoi tu le fais tout seul? Tu le fais toi-même? Parce que j'imagine que quand tu pars en voyage, tu vois, comment ça se passe?
Moi, j'ai appris des techniques pour me le faire toute seule. Il y a des séances qu'on s'appelle le drainage autogène. Donc, c'est vraiment, tu apprends des techniques pour remplacer le kiné, même si c'est jamais optimisé de la même façon.
Bien sûr.
Mais il y a des possibilités de le faire. Et puis, tu as des aérosols qui nous aident aussi
à dilater,
à fluidifier ce mucus.
Ok.
Pour qu'ils puissent plus facilement être évacués. Et on a des antibiotiques aussi parfois pour nous aider en cas de quand on s'infecte par un virus, une bactérie.
Malgré tout ça, tu t'es dit je vais quand même partir triper en Amérique du Sud, je vais prendre une bagnole, je vais faire un énorme road trip alors qu'on sait très bien que l'Amérique du Sud, il y a des coins quand même bien paumés. C'est quoi qui t'a donné envie? Pourquoi t'as voulu le faire et pourquoi surtout t'as passé le pas? Parce que j'imagine que il y a quand même un risque dans tout ça.
Oui, bien sûr. Disons que ce projet de partir en Amérique du Sud, je l'avais depuis pas mal d'années en tête. Moi, j'ai fait des études de pharmacie et j'ai fait l'internat. Donc, en gros, c'est des semestres du 1er juin, du 1er mai au 1er novembre.
Ouais.
Et c'est assez facile de prendre ce qu'on appelle une disponibilité. Et du coup, de se barrer 6 mois, tu reviens et paf, tu reprends le cursus comme si de rien n'était.
Top.
Donc, je m'étais dit, putain, mais c'est génial, 6 mois en Amérique du Sud, il y a moyen de faire des super trucs. L'Amérique du Sud, pourquoi? Je pense que c'est vraiment les grands espaces, voir ces volcans qui culminent à plus de 6000. Il y a tout qui m'attirait là-bas. J'aime bien l'espagnol aussi. Donc voilà, je m'étais dit, je vais absolument un jour faire ça. Mais à cette époque-là, je ne voulais pas partir toute seule non plus. Mon copain d'époque ne pouvait pas prendre 6 mois. Et ça, ce n'est pas fait.
Okay.
Et puis, en fait, ce qui m'a décidé à partir, c'est que j'ai peut-être rencontré la bonne personne après, qui était un peu dans le même état d'esprit que moi. Et puis on en a parlé, mais un peu de façon anodine, genre moi j'aimerais trop faire partir en Amérique du Sud en van et pas avoir de billet de retour. Arrête, moi aussi. Ah bon? Feu alors. On a 30 ans, moi je voulais vraiment faire ça avant d'avoir une famille, des gamins. Et puis professionnellement ça matchait tous les deux.
Yes.
On a quitté notre job, moi j'étais en CDI. Lui, il était indépendant, donc on s'est dit, fin d'année, on quitte notre boulot, puis on part en janvier.
Et à quel moment, justement, le fait d'avoir la mucoviscidose, ça se met dans le plan où ça devient un frein? C'est-à-dire que, en plus, vous avez acheté une bagnole et tout, vous avez fait un road trip. Peut-être c'est aussi pour ça que vous avez choisi ce mode-là, plutôt que, j'imagine, les transports. Mais ça implique quoi? Pourquoi je te demande ça? C'est parce que tous ceux qui ont peut-être une pathologie, j'aimerais bien qu'ils se disent que c'est possible et qu'il y en a qui trouvent des solutions. J'imagine que ce n'est pas aussi facile que tout le monde, mais c'est possible. C'est quoi le layer? C'est quoi la brique en plus chiante que ça implique d'avoir la mucoviscidose quand tu voyages?
Ah, c'est une grosse brique quand même.
Ah, c'est un rocher quoi.
Ouais.
C'est un rocher, on a un rocher dans la remorque, ok.
C'est aussi, comme tu dis, le moyen de transport est un peu relié, vu que partir en backpack avec ton sac sur le dos, quand tu as justement des médocs à prendre tous les jours pour manger, ça va vite représenter du poids et surtout une grosse, tu vois, beaucoup d'espace, on va dire, dans le sac. Il y a peut-être que ça d'ailleurs. Donc, du coup, le van était beaucoup plus approprié déjà pour partir en itinérant, parce qu'en plus, l'idée, c'était vraiment de bouger
Ouais,
quasiment tous les jours.
bien sûr.
Et comme tu dis, l'Amérique du Sud, bah, ce n'est pas les mêmes systèmes de santé qu'on a en France. Ils n'ont pas le même accès, on va dire, au traitement.
Bien sûr.
Je ne sais même pas, tu vois, s'il y avait vraiment exactement tous les médicaments que je prends,
Ça veut dire que tu as
que
dû
j'aurais
prendre
pu
tes
trouver
six
sur
mois de
place.
médoc avec toi?
Voilà, du coup, en fait, la muco, elle a été dans le truc dès le début, parce qu'on s'est dit, bon,
Ton assaut, ouais.
on prend enfin, on quitte le boulot, mais on ne savait pas vraiment pour combien de temps on partait. On avait fait exprès de se dire, on ne se met pas d'objectif pour, bah, en cas de pépin,
Bien
bah, on
sûr.
rentre. Enfin, voilà, il
Ouais.
n'y a pas de discussion, on ne va pas,
Pas jouer avec ta vie.
rester. Et pour, oui, voilà, ce n'est pas l'objectif. Et donc, du coup, la muco, elle a été dans le chemin public dès le début. Je me suis un peu renseignée, moi, de mon côté, sur bah, comment faire pour emmener ce que je dois prendre tous les jours pour le plus longtemps possible. Et en fait, donc, le maximum que tu peux faire quand tu es en France,
Ouais.
c'est partir avec 6 mois de traitement. Tu dois faire une dérogation auprès de la sécurité sociale,
Ah, pour
des
qu'il te laisse,
ordonnances
ouais, ok.
spécifiques. Voilà. Tu t'arranges avec ta pharmacie en amont pour qu'ils puissent commander tout le
Six
stock
mois, putain, ouais.
nécessaire. Et voilà. Et du coup, tu peux faire pour 6 mois. Non, tu peux faire 3 mois et demander une dérogation. Tu dois remplir
Tu
un
doubles les trois
formulaire, tu trouves
mois.
tout en ligne.
Ok.
Et maximum, voilà, t'expliques un peu les raisons pourquoi tu veux 6 mois. Et enfin, moi, j'avais vraiment dit que c'était pour
Attends, mais
du
il n'y a pas un
perso et que je
médoc
voulais voyager. Hein.
là-dedans où il faut du frais, où ça se périme
Et
avec
ben
la
non.
chaleur, ou tu sais. Parce que je sais que les
Si, si, si.
diabétiques, il faut faire gaffe, tu
Bien
vois.
sûr. J'avais de la chance de ce côté-là, c'est
Ah, ok.
que j'avais que des traitements qui n'étaient pas aux frais. J'avais pas de poudre à reconstituer, pas
Ah,
d'injection. C'était vraiment
ouais.
que des comprimés ou gélules. Bon,
Ok.
évidemment, il ne faut pas les foutre en plein cagnard. Et on n'avait pas de frigo, nous, dans notre van. Donc,
Ok.
c'était un peu en mode glaciaire. On avait sacrifié la glacière pour mes traitements plutôt que pour la bouffe, quoi.
Ouais, ah,
C'était un
ok.
choix.
Ouais, c'est bien,
Mais
c'est
oui,
bien.
donc, on est parti avec 30 kilos de médicaments.
30 kilos?
Ouais.
30
Et
kilos de
ça,
pilules.
c'est assez impressionnant, justement, parce que moi, je n'avais jamais fait ça, de rassembler tout ce que j'ai besoin pour 6 mois. Et quand tu le mets sur la table, quand tu enlèves, en plus, moi, je voulais optimiser
T'enlever les
l'espace au maximum, donc
emballages,
j'ai
les
enlevé
trucs.
toutes les emballages. Voilà, tous les emballages, j'ai enlevé. J'ai remis les boîtes pour les remplir au maximum et optimiser vraiment, tu vois, le moindre petit gramme.
Ouais.
Et quand tu mets tout ça sur la table, c'est assez flippant de se dire, oh,
Tout ça qui
mais
passe dans ton corps.
j'ingurgite
Ouais.
tout ça, quoi.
Waouh.
Et depuis des années. Donc, ouais, ça, sur le coup, je me suis dit, waouh, ah ouais, bon, bah, il doit être un peu détruit, mon petit estomac,
Ouais, c'est
depuis
pas fou tout le
tout ce
plastoc, parce qu'il y a quand même du plastoc qui un peu bon, qui se désagrège, mais bon, c'est
temps.
pas.
Ouais, non, mais il est quand même costaud pour tenir le choc, tu vois,
Tu
encore
m'étonnes.
30 ans après.
Alors attends, mais comment tu déjà. Tu sais, t'as cette pression aussi de pas perdre les médicaments. Ça, on y reviendra après, je pense, pendant le. Tu sais, c'est bête, mais l'Amérique du Sud, voilà, faut faire attention à ses affaires. Donc, ça veut dire potentiellement, tu t'éloignes de
Ah, bien
ton van
sûr.
pour X raisons. Malheureusement, on te le jailbreak, on te le pique. Ça veut dire que tu te retrouves. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc tout bête. Je ne connais vraiment pas très bien cette maladie, la mucoviscidose. Mais qu'est-ce qui se passe si t'es en Bolivie et tout à coup, on te pique ton van ou on te pique tes affaires, t'as plus tes médocs. T'as combien de temps pour pouvoir aller en chercher? Avant que ça aille pas bien.
Je me suis posé cette question forcément,
Ah,
mais
j'espère.
enfin, en soi, je peux pas, tu veux dire, enfin, je ne vais pas mourir dans la journée. C'est juste que
C'est une bonne
je
nouvelle.
peux pas manger. Enfin, je peux manger, on va dire, de la salade sans sauce, du pain, mais tout ce qui va être matière grasse ou autre, je vais pas l'assimiler. Donc, je vais forcément me retrouver en carence assez vite, mais j'ai quand même le temps de réagir. Je pense que vraiment, si tu es en Bolivie vraiment paumé, déjà, tu te rapproches de la plus grosse ville que tu as à côté. Tu vas voir s'il n'y a pas un hôpital français ou en pharmacie. Si déjà il y a, moi j'ai surtout besoin, parmi tout ce que je prends, d'une molécule qui me permet vraiment
S'appelle.
d'assimiler ce que je mange. Le reste, c'est une supplémentation en vitamines.
Ok.
Tu te dis que ça pourrait passer quelques jours.
C'est quoi cette
Mais
molécule qui est ta meilleure amie?
ça s'appelle le créon. En fait,
Le crayon. Ok.
c'est une enzyme pancréatique
Ok.
qui remplace mon pancréas qui marche pas, en fait.
Ok,
Elle
ok.
remplace la fonction qui marche
Ouais,
plus.
puis je sais que quand ça marche pas, c'est pas top le pancréas.
Bah alors, du coup, c'est pas le côté diabétique. Pour moi, enfin, en tout
Ah!
cas chez moi,
Ouais, ok.
ça marche encore bien.
Ouais.
Mais il y en a, ouais, c'est une complication de la mucoviscidose, de diabétique.
Ok, et du coup, une fois que tu avais ces 30 kilos de vie, de médicaments qui allaient te tenir en vie, ça a été quoi le plan? Ça a été justement de prendre les billets d'avion, d'acheter un van. Du coup, vous avez pris un van ou un 4x4? Déjà, c'est important, parce que souvent, il y en a qui préfèrent le 4x4 en Amérique du Sud, parce que ben on va plus off-road. Vous avez pris quoi comme véhicule?
On a acheté un van à Santiago,
Santiago du
au
Chili,
Chili.
ouais.
Ouais, Santiago du Chili, à un couple de Français
Ah bah
qui
génial.
rentraient de leur trip.
Ouais.
Et voilà, on l'a trouvé via Facebook. C'est vraiment une mine d'or, Facebook, quand tu pars en voyage.
Ah ça c'est intéressant, et c'était
Pour
sur
plein
quel groupe
d'infos.
que vous étiez?
C'était, je crois, les Français au Chili. Ou alors un truc de van, un groupe de van, peut-être.
Ah ok.
On a fait tellement de trucs.
Ah mais
Et
c'est...
je retrouve, enfin, c'est un truc, ouais, ou Outlander, où il y avait que des personnes qui se déplaçaient, pas qu'en van d'ailleurs, il y avait aussi camping-car, caravane, t'avais même des mecs en tente, et chacun mettait un peu des infos, c'était surtout vente ou
Ouais,
achat de
c'est super.
véhicules. C'était super. Ah ben nous, on l'a revendu de la même façon d'ailleurs.
Ah bah tu sais quoi? Bah si tu nous écoutes internaute et que tu vas au Chili, on va mettre le lien évidemment de ce groupe et dans la description du podcast pour faciliter les choses. Donc en fait, tu arrives à Santiago. C'est quoi le budget en gros qu'il faut pour un van en Amérique du Sud qui tient à peu près la route et on n'a pas envie de se retrouver en plein désert tout seul avec un moteur qui est en rade? C'est quoi un van qui tient la route?
Alors, nous, on a mis plus cher que ce qu'on avait
Ah
budgétisé
ok.
initialement. On a mis 10 000 euros.
Ok.
Mais enfin, c'était un Chevrolet Astrovan qui avait pas beaucoup de bornes. Et surtout, c'était les Français à qui on l'a acheté qui avaient tout retapé le
Ah
van
yes, pour l'optimiser
pour
pour
dormir.
le
Et du coup,
voyage.
ils nous ont. Enfin, c'était vraiment leur bébé. Ils nous l'ont. Ils étaient vraiment tristes de le laisser. Ça se voyait. Et ils l'ont super bien isolé avec des feuilles d'aluminium. C'était tout en bois, ce qui alourdit le véhicule, mais on n'a jamais eu froid. Même au Patagonie, même sur
Ah
les
ouais.
plateaux andins de la Bolivie, jamais eu froid. Pas besoin de dormir avec des duvets, on avait
Ah
juste une
oui.
couette.
Ah oui,
Je te
c'était
jure, c'était
très bien
génial.
isolé alors. Ah parce
Hyper bien
que la
isolé. Ils avaient
Patagonie et
vraiment
tout.
fait le
Non. Mais...
boulot vraiment super bien. Et puis enfin, tu entends le vent, en fait, tu entends les bruits un peu extérieurs si vraiment c'est la tempête, quoi.
Ouais.
Mais t'es au chaud dans ton petit cocon, comme dans un petit chalet. Franchement, on
Ouais.
était trop bien dedans.
Et grosso modo, si... À part si on trouve la petite pépite qui va bien et le pimp van de luxe trop stylé retapé par des gens, en gros, un budget, c'est combien là-bas? C'est 5, 6, 7, 8 000
Ouais,
qu'il faut
j'allais dire
compter?
6, 7 000. La plupart des gens qu'on croisait,
Ouais.
qui avait des vans sans, enfin, qui n'étaient pas 4x4. Nous, il n'était pas 4x4, celui qu'on
Ok.
avait. Il était, enfin, on ne pouvait pas aller vraiment de partout
Ouais.
avec, d'ailleurs, parce qu'on pesait, bah, avec cette carcasse en bois à l'intérieur,
Ouais.
on pesait 2 ou 3 tonnes, je ne sais plus. Enfin, c'était assez lourd, quoi. Et donc, les gens qu'on croisait, c'était plus 6-7 000, mais ils avaient tous froid. Enfin, ils dormaient tous avec leur duvet dedans.
Ouais, ça
Donc,
caille.
après coup, on s'est dit, bah, moi, je ne regrette pas, en fait, de d'avoir mis plus cher
Ouais, d'être
pour un
confort
peu
tous
de
les
confort.
soirs. Ouais, déjà que t'es dans ta voiture.
Ouais. Tu es dans la voiture. Nous, oui, c'est vraiment le format van où tu ne peux pas tenir debout dedans.
Ouais.
Donc, en gros, tu ouvres le coffre à l'arrière et puis tu avais les plaques pour faire à
Ouais, ah
manger,
ouais, d'accord.
un petit évier, une petite douchette. Donc, tu es constamment dehors. Donc, tu vis avec le soleil.
Bien
Et
sûr.
nous, notre voyage, c'est un peu ça. On a fait notre itinéraire en fonction de. Bah, là où il faisait quand même beau et chaud pour apprécier.
Ah, tu m'étais. Bah justement, c'était quoi cet itinéraire quand vous avez sillonné l'Amérique du Sud? En bullet
Alors, on est
point,
parti en
pam pam pam.
janvier. Ouais. On est parti en janvier 2019.
Ouais.
Donc, du coup, janvier, quand tu arrives au Chili, c'est l'été. Il fait même très chaud. Et on a commencé par la
Hémisphère sud.
Patagonie, justement, parce que c'était encore à la bonne période pour la faire. Donc, Chili. Après, l'objectif, c'était d'aller jusqu'à Ushuaia.
Nice. Ah
On
oui,
a,
la borne.
tu vois, on a traversé frontière Chili-Argentine tout le long, là, jusqu'à Ushuaia. Après, on est remonté l'Argentine jusqu'à Buenos Aires.
Ah ouais.
Ouais, là,
Vous avez bien
c'était la
poncé
pampa
la
complète.
péninsule sud, hein.
Ah ouais, bah c'est clair. Ah ouais, bah la Patagonie, on a fait beaucoup de randonnées. Ça rappelle un peu les paysages. Moi, je suis proche des Alpes en habitant Annecy, donc. C'était un peu des décors qu'on connaissait, sauf que là, tu avais aussi les glaciers. Et c'est vraiment, c'est des immenses glaciers, quoi. Il y a le Perito Moreno, mais il y en a aussi plus au sud de la Patagonie. c'est bluffant dans l'hôpital. Alors, le bruit quand il y a des morceaux qui se décrochent, c'est vraiment impressionnant. Et donc après, on est remonté à Buenos Aires. On a fait un petit crochet par l'Uruguay pour voir un peu ce que c'était.
Alors attends, tu sais quoi, j'aimerais qu'on fasse une micro-parenthèse. C'est tellement un pays dont on ne parle pas, l'Uruguay. On m'a dit que c'est un pays qui se vit et pas qui se visite. T'en as pensé quoi? Vous êtes resté combien de temps? T'en as pensé quoi? Fais-moi une petite parenthèse Uruguay.
C'est trop drôle que tu dises ça, parce que on avait prévu de faire toute la côte de l'Uruguay, parce que c'était là un peu qu'il y avait tous les petits les trucs à voir, on va dire. Et en fait, on est arrivé à Punta del Este, et on est arrivé sur un port, il y avait un énorme lion de mer, où tout le monde lui filait du poisson.
Okay.
Donc lui, il était comme un pacha sur les escaliers. Et puis moi, j'étais là, je fais « Oh, mais regarde les dents qu'il a, c'est un truc de fou !» Et là, t'as un gars à côté de nous qui nous parle en français. Et donc, on sympathise et il nous dit « Bah, si vous voulez, venez, on fait un barbecue chez moi demain soir. » Trop sympa. Nous, on était un peu en manque de sociabilité. Ça faisait 4 mois qu'on était partis tous les deux dans notre van à sillonner la Patagonie. On s'aime beaucoup. Hein,
pas beaucoup de voisins, pas beaucoup de voisins en Patagonie.
On a fait quelques rencontres très sympas, mais courtes. Donc, du coup, c'était très sympa. C'était bien d'avoir des gens, un barbecue. On s'est dit, oh, mais génial!
Des gens, des discussions, un apéro, c'est ça?
Et on est allé à ce barbecue. Il y avait un autre couple de Français qui s'avérait être lyonnais. Nous, on est partis de Lyon. On habitait la Croix-Rousse. Et ils habitaient la Croix-Rousse. Enfin, vraiment, c'était trop drôle de voir ces gens à l'autre bout du monde et se dire, putain, on était voisins il y a peut-être quelques mois, quelques années. Ils avaient la cinquantaine, je pense.
Ouais.
Ça a super bien matché. Ils nous ont dit, bah écoutez, on a une maison secondaire dans la campagne de l'Uruguay. Et si vous voulez, bah venez chez nous. Bah ok. On avait vraiment bon feeling avec eux.
Ouais, ouais, ouais.
Et on allait chez eux.
Et en fait, c'était des tueurs en série.
Non, voilà, c'est vrai qu'on a eu de la chance dans les rencontres, pour le coup, sur ce voyage, mais bon, tu le
comme
sens
souvent,
un peu aussi.
Comme exactement.
Et eux...
Attends, décris-moi la petite maison dans la prairie de l'Uruguay.
Mmh. Tu vas voir la petite maison. Ouais. La petite maison, c'était une baraque de fou.
Ah ouais.
T'arrivais, t'avais que des baies vitrées.
Oh
une petite piscine, tu vois, tout, les arbres bien coupés autour, des plantes, c'est hyper verdoyant. L'Uruguay, c'est un peu comme quand t'arrives au Luxembourg. Tout est propre, tout est impeccable.
Ah ouais,
toi, t'arrives d'Argentine, c'est un peu le bordel.
L'Uruguay,
là,
c'est comme ça
quasiment quand tu traverses la frontière. Tu fais... Mais attends, mais là, l'herbe est coupée, les arbres sont impeccablement taillés, c'est vert. Tu te dis, mais ils en rose ou quoi? Mais en fait, je pense pas mal à rose. Et on était à José Ignacio.
Ouais.
Et c'est un peu le... C'est un peu le Saint-Tropez de l'Uruguay. On a découvert ça après. C'est vraiment, il y a toutes des belles baraques, des super terrasses. C'est assez jet-set.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent en Uruguay? C'est un peu, encore, j'ai l'impression, c'est un pays un peu secret en Amérique du Sud, parce que les pays en Amérique du Sud, ils sont poncés et reponcés, hein, Pérou, Bolivie, Brésil, Argentine. Mais l'Uruguay, parce qu'il n'y a pas un truc à visiter qui est un peu foufou, j'ai l'impression que ça passe en dehors des itinéraires. Qu'est-ce qui t'a marqué en Uruguay? C'est quoi qui t'a... Tu sais, si tu devais nous décrire l'Uruguay, à part ce côté, déjà que je ne connaissais pas, tout bien coupé et un peu en mode, tout propre, tout Luxembourg, j'aime bien la comparaison, mais comment tu le décrirais d'autres?
Alors, moi, j'ai pas fait grand-chose de l'Uruguay parce qu'on a fait ces belles rencontres.
Ouais.
Et que finalement,
c'est tellement plus
important pour nous que...
Bien sûr.
On avait prévu d'aller voir ça, d'aller voir ci, parce qu'on avait lu dans les blogs, les guides. Et en fait, on l'a pas fait parce qu'on est resté avec eux et ça, c'était vraiment la richesse de ce pays. Moi, l'Uruguay, je me rappelle que des gens que j'ai rencontrés finalement. Tu vois, il y a une grosse partie de l'Uruguay que j'ai pas fait, où il y a l'intérieur des terres qui est un peu plus forêt, un peu, on va dire, sauvage.
Ouais.
Et la côte où tu peux faire du surf, apparemment, t'as vraiment des spots où t'as des plages.
Et vous avez réussi à rencontrer des locaux ou c'était que ambiance, que des potes expats que vous avez pu vous faire?
Eux, ils nous ont fait aller dans une soirée cinéma en plein air organisée par des voisins à eux qui étaient uruguayens. Et du coup, on s'est retrouvés dans ce contexte. On a regardé un film sur la guerre d'Algérie, mais c'était...
What?
C'était lunaire d'être là-dedans. Tu te dis, mais c'est fou. Comment on a fait pour atterrir dans cette maison pareille, encore une immense baraque. Et c'est que des gens. C'est assez des businessmen, les personnes qui sont là-bas.
Ah, ok.
Tu vois, celui qu'on a rencontré. Mais c'est des gens mais tellement adorables. Enfin, ils nous ont quand même laissé les clés de leur annexe de leur maison, qui était en fait une petite maison, pour qu'on y reste une semaine, pour qu'on puisse avoir un vrai lit, une vraie douche.
Ah ouais.
Et eux, ils retournaient à Montevideo, dans la capitale, pour bosser. Et en fait, ils venaient les week-ends dans cette maison. Et ils nous ont laissé les clés. On se connaissait à peine, tu vois. C'est... Enfin, nous, on était tellement... c'était beaucoup d'émotions pour le coup, parce que...
Bien sûr.
Je sais pas, en fait, on s'est posé vraiment la question, si est-ce que nous, on aurait fait la même chose
bien sûr,
en France,
super
tu vois.
À se poser. Ouais.
Et enfin, vraiment, pour le coup, je me dis, mais ils nous laissent quand même l'accès à leur piscine. Moi, j'ai même fait du cheval, parce qu'ils ont des chevaux. Je n'avais pas monté
normal.
Sur un cheval depuis le CM2.
J'imaginais trop ça comme ça, l'Uruguay. Tu sais, le grand range.
Des...
Oui, c'est mes étalons qui courent en liberté sur mes hectares de propriété.
Non, mais en plus, quand tu les rencontres, mais jamais tu peux imaginer ça. Enfin, ils n'ont pas du tout
simples, c'est ça
cette attitude. Mais oui, et on les a revus d'ailleurs à Lyon quand ils sont venus pour Noël, je crois. On s'est revus, on s'est fait un resto ensemble. Donc du coup, c'est vraiment des gens avec qui je suis encore en contact et,
écoute,
on échange
merci
toujours.
Merci beaucoup pour cette petite parenthèse uruguayenne dont j'entends pas souvent parler, donc merci pour ça. Et du coup, si on continue l'itinéraire, parce qu'à la base, on était quand même sur l'itinéraire, même avant que je te fasse un peu parler de l'Uruguay, où est-ce que ça a fini? Par où ça a fini, justement, ce trip?
Et ben ensuite, on a fait un petit aller-retour à Iguassu pour voir ces fameuses chutes.
Normal.
Quand même, voilà.
Il faut.
Et ensuite, on est remonté au nord de l'Argentine.
Ah, ok.
On a fait un peu le nord du Chili, la Atacama, avant de partir en Bolivie. Et ensuite, on a remonté jusqu'en Colombie. Donc Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie.
Ah ouais, un sacré trip. Écoute, maintenant qu'on a compris... Alors, j'imagine que t'as mis combien de temps pour acheter le van? C'était quoi, c'est 3, 4, 5 jours, une semaine?
On regardait un petit peu ce qui passait et on a vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Donc, c'était en novembre.
Ouais.
Il faut être hyper réactif. Parce
ah
que
ok, ça part vite. Okay.
Ça part vite.
Ah ok,
ça
en fait,
part
c'est
vite.
Quelques jours.
C'est un peu la période où les gens partent parce que si tu veux faire la Patagonie, c'est vraiment...
Novembre, décembre,
janvier, la super période. Et après, en fait, on a appelé les personnes qui vendent le van pour être sûr que ce n'est pas une arnaque. Parce que, bon, tu passes quand même par Facebook, c'est que des photos.
Bien
tu
sûr.
Vas lâcher 10 000 balles. Tu veux être sûr qu'il existe, le truc.
Tu m'étonnes.
Donc ouais, ça s'est fait assez vite. On leur a fait une avance. Et on a réglé la fin quand on les a rencontrés au Chili.
Ah, parce que ils étaient pas sur... vous étiez... Attends, mais vous étiez pas sur Santiago? Enfin, vous étiez pas au même endroit?
Ah non, en fait, nous, on l'a acheté, on était encore en France. On n'était pas encore partis.
Ah, d'accord.
Ah oui. Ouais.
Ah ouais, donc ça veut dire que les gens peuvent le faire aussi, s'ils le veulent. Ah, je pensais que c'était genre, tu consacres
bien
une
sûr.
Semaine à l'arrivée. Bon, si tu peux le faire aussi, parce qu'apparemment, ça part vite, si je comprends bien.
Bah, eux, typiquement, ceux à qui on l'a acheté, c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils voulaient le retaper eux-mêmes.
Ouais.
En fait, ils ont cherché un van non aménagé pour l'aménager à leur sauce.
Ouais, je vois.
Et après, ils ont mis l'annonce pour le vendre.
Ouais.
Et bon, nous, il se fait que ça matchait bien. Ils voulaient rentrer en janvier. On arrivait en janvier. Donc voilà. Après, c'est bien. Mais il faut avoir quand même quelques jours ensemble sur place parce que tu as beaucoup de paperasse à faire pour racheter le van, que tes papiers soient à ton nom.
Ah ouais.
Tout passe par un notaire là-bas, au Chili.
Ah merde, ok.
Donc c'est bien de... Enfin, il faut rester quand même, je dirais, 3 jours nécessaires ensemble.
Va. Ok, ça va.
Voilà.
Ça va, c'est pas non plus
mais
2 semaines.
Mais bon, 3 jours où tu les consacres à ça quand même.
D'accord.
Donc quand t'arrives de ton voyage, t'es un peu en jet lag, t'as qu'une envie, en fait, c'est quitter ces grosses villes pour aller dans la nature et te retrouver avec ton van et vivre enfin cette aventure dont tu parles depuis des mois. Ces passages chez le notaire où en fait, tu attends les 3/4 du temps que tu attends.
Ah, mais ça fait monter l'envie au moins.
Arrive.
T'attends qu'une chose
ah ouais,
après.
Bah là,
c'est
barré quoi après.
Tu m'étonnes. Et justement, c'est cette aventure dont tu parles que tu voulais le vivre depuis des mois, là ça montait, que vous aviez pris la décision. Est-ce que le projet d'écrire un livre, donc ton livre qui sort, qui est À couper le souffle, petit jeu de mots avec la mucoviscidose, et est-ce que c'était tout de suite une envie? ou finalement c'est après avoir vécu toutes les choses que tu vas un peu nous raconter dans la suite du podcast que ça t'a donné envie d'écrire le livre? Ça a été comment? Ça a été tout de suite, j'ai envie d'écrire finalement quelque chose pour tout de suite raconter une aventure et transmettre des valeurs, transmettre que aussi bah, de montrer qu'on peut y arriver? Ou est-ce que c'est d'abord t'as ingurgité ton voyage et t'as eu envie de le partager?
C'est la deuxième option. C'est, le livre n'était pas du tout un projet. En fait, c'est beaucoup Nicolas, donc mon compagnon de route et de vie, qui a vu en fait, qui m'a poussé un peu à communiquer sur ce que je fais, parce qu'il me dit mais tu te rends pas compte en fait, toi tu fais tout ça pour toi, mais ça peut vraiment aider d'autres personnes
Bien
qui
sûr.
Soit ont la même maladie que toi, soit les proches, soit même d'autres pathologies chroniques. Qui peuvent être tout aussi contraignantes.
Même des gens normaux, parce qu'ils se disent « Attends,
et
si
oui.
moi je suis en bonne santé et je ne le fais pas, et elle laisse tomber 30 kilos de médicaments et qu'elle arrive à vivre sa meilleure vie et se dépasser, au contraire, tu peux impacter beaucoup plus de gens, je pense. » Et c'est ça qui est formidable. Ouais, donc c'est venu après.
Oui, non, c'est vrai, tu as raison, parce qu'il y en a plein de mes amis qui
bien
m'ont
sûr.
Dit « Mais en fait, moi, j'aurais jamais eu le courage déjà de quitter mon job, où tu es bien en CDI, tu as une belle condition, pour partir. » Je sais pas où, combien de temps, et revenir, et je sais pas ce que je vais faire quand je vais revenir. Enfin, trop d'inconnus, quoi.
Ouais, trop
d'inconnus. Mais bon, c'est peut-être
sans
aussi,
même avoir le paramètre santé.
Ouais, mais tu vois, c'est peut-être parce que j'ai ce paramètre santé que je me pose moins de questions. Je suis très dans l'instant présent, en fait. Je me projette un petit peu, mais pas des masses, quoi. Je suis plus à profiter qu'à construire vraiment
Bien
pour
sûr.
Plus tard. Et je pense que ça m'a aidé à prendre typiquement ce genre de décision.
Eh ben justement, j'aimerais qu'on arrive pour profiter un peu de chaque moment que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton voyage en étapotes? Les étapotes, c'est un mix entre étapes et anecdotes. C'est-à-dire que tu me racontes tes étapes que tu as vécues dans ce voyage, mais à travers des anecdotes. Est-ce que justement, tu vois, on parlait du départ, après le notaire, ok, il était dans le van. Ça a été quoi les premiers jours? Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui reflète pour toi le début de l'aventure?
Bah, ouais, le début, déjà, dès que les papiers étaient signés, on s'est dit, on part de Santiago, peu importe où on va, mais on va dormir quelque part, pas en ville. Donc déjà, trouver un spot pour dormir, c'est pas si facile, et c'est pas toujours un décor de dingue comme on peut voir sur Instagram. C'est pas toujours l'hôtel 4 étoiles avec la vue de fou et les petits oiseaux qui chantent. Ce qui fait que nous, on est partis un peu tard de Santiago, et on a roulé. Et il fait nuit assez tôt.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on s'est posé un peu dans un endroit. On a vu le lendemain que c'était pas top. Il y avait
parking.
Des déchets un peu partout.
Okay.
C'était pas un parking, c'était vraiment un endroit paumé, mais c'était dégueu. Mais bon, ça nous a fait rire sur le coup. On s'est dit, bon, allez, vive le van.
C'est ça, van life, hashtag van life.
Van
trop
life.
Cool.
Donc voilà, c'était la première nuit.
Ah, tu m'étonnes. Mais tiens, un truc tout bête, parce que je pense qu'il y en a aussi qui, quand ils ne l'ont pas fait, ils ne s'en rendent pas compte. C'est quoi la dangerosité, tu sais, de se faire potentiellement braquer en Amérique du Sud quand tu es en van? Parce que je pense que tu as poncé un peu le sujet, tu as dû échanger, tu l'as vécu, toi. Mais au-delà de le vivre, parce que ça, c'est qu'un témoignage, tu as dû échanger aussi avec d'autres personnes. C'est quoi le niveau de danger, on va dire, quand tu voyages en van ou en road trip là-bas?
Alors, je pense que tout part du bon sens que tu as. Mmh. Et tu te renseignes un peu avec les gens que tu croises, qui se déplacent aussi de la même façon que toi. Tu as des guides. Et surtout, nous, on avait une application qui s'appelle iOverlander. Ça a été notre meilleur ami du voyage. C'est une appli qui est gratuite, tu la télécharges, elle marche en mode avion, pas besoin de connexion.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et en fait, elle te répertorie tous les spots où les gens se sont posés. Et tu as des commentaires en négatif, en positif, l'itinéraire exact pour y aller. Et si tu as besoin d'eau, d'électricité, parfois même de Wi-Fi, donc selon si tu te le mode de. Enfin, moyen de transport que tu as. Et ça nous a simplifié, mais je me dis qu'à l'époque, quand tu devais chercher sur une carte un endroit pour dormir, ça devait vraiment être plus l'aventure quand même que nous qui avions... C'était pré-mâché, en fait.
Ouais, ouais.
Puis tu avais les commentaires, c'est super. Ah non, attention, là, il y a un peu des moustiques. Y avait
ah ouais,
tout,
ça va dans vraiment... le détail, ah ouais.
Ouais. Il y en a même qui racontaient exactement l'endroit où ils s'étaient posés. Tu pouvais faire des photos et donc mettre sur l'application la photo de l'endroit.
Ok.
Et nous, pareil, donc si tu arrivais à de trouver un endroit où tu te dis, oh là là, c'est génial, il y a une petite rivière en plus
Tu
pour
peux en
remplir
rajouter.
ton eau, tu pouvais le spotter, mettre ton commentaire
Comment tu
et ça
l'appelles?
aide
Comment
d'autres
tu l'écris cette
voyageurs.
appli?
C'est iOverlander, comme iPhone, mais
Ah,
iOverlander.
ok, Overlander. Un peu comme
Ouais.
Park for a Night, mais
Et
c'est un autre.
exactement, bah, j'ai appris, je ne connaissais pas cette appli quand on est parti là-bas,
Ouais.
et on m'en parle beaucoup depuis. Donc ça doit être, ça dépend peut-être des lieux où tu te rends. Nous, il y en a beaucoup qui utilisaient ça.
Bah pareil, on mettra ça, c'est dans la description du podcast si tu veux télécharger l'appli. Et après cette première nuit au milieu des petits déchets, qu'est-ce qui s'est
On a
passé?
trouvé des spots mieux.
Ah, c'est ça, non mais donc vous avez attaqué direction la Patagonie. Raconte-moi un
Ouais,
peu cette
Patagonie,
aventure.
c'était. Ouais, Patagonie, bah, tu arrives sur des. T'as déjà, sur des routes un peu chaotiques, on va dire. Il y a beaucoup de pick-up là-bas, quasiment.
Ah.
Enfin, c'est vraiment le véhicule du coin. Et ça match avec. Parce qu'il y a beaucoup de backpackers, donc qui font du stop. Et qui te. Enfin, nous, on en a
Ah,
pris en stop, tu vois, dans notre van.
il y
Mais
en
je
a
me
qui
suis
se
dit, ah ouais,
chauffent, il y en a qui se chauffent quand même en Patagonie à faire du stop.
bien sûr, des pleins. On s'est dit après coup qu'en fait, ça dépendait de ton âge. J'avais l'impression que quand tu es autour de 20 ans, tu pars avec ton sac à dos. Quand tu es autour de 30 ans, tu prends un van. Et quand tu es en famille ou tu es plus vieux, bah, tu es en mode camping-car, caravane, quoi.
Ah,
C'était
c'est une
un peu
bonne
le
évolution
profil.
du voyage un peu route, effectivement.
Voilà. Ouais, parce que je me suis dit, ah là là, c'est vrai que j'aurais bien fait ça en sac à dos, mais plus maintenant, quoi. Quand
Ouais, il y
j'étais
a
un
une
peu plus jeune.
énergie, c'est ça.
Voilà.
Faut avoir la foi.
Mais la Patagonie, c'est ça, c'est. T'as des grandes routes, t'en as qu'une, ça s'appelle la Carretera Austral. T'es un peu obligé de passer par celle-ci et tu te retrouves à chaque ville et à chaque intersection avec plein de gens qui te font du stop. Et c'est un peu, tu fais, bon, alors lequel je prends? J'ai
Ah,
un
mais
petit
vraiment?
marché, là,
Genre, il y a
je.
5, 6, 10, c'est ça?
Ah ouais, et puis apparemment, t'as un peu des règles quand t'es avec ton sac à dos et que tu veux prendre une voiture, t'arrives et qu'il y a des gens.
Tu te mets
Bah, tu te
derrière.
mets pas. Mais oui, voilà. Tu te mets pas n'importe où. C'est les gens qu'on a pris qui nous ont raconté ça, du
Ah
coup.
ouais! Attends, mais en même temps, s'il y a une voiture à l'heure, j'ai envie de te dire, ouais, sinon ça serait
Ouais,
la
tu veux pas
baston,
la louper.
quoi. Ouais, tu
C'est
veux pas la
sûr. C'est
louper,
sûr.
tu passes pas devant le mec qui est là depuis 4 heures parce que, ouais. Tu m'étonnes, ça va être
Mais
l'enfer.
là-bas, c'est vraiment monnaie courante. Et puis, tu as même des nanas qui voyagent toutes seules et qui sont en sac à dos, qui montent avec des inconnus. Il n'y a pas vraiment de climat de terreur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire qui se passe, mais c'est vraiment une habitude
Ouais,
de
c'est.
circulation. Tu prends, puis tu poses, pas forcément exactement où ils veulent, mais eux, ils sont tellement contents que tu les aies rapprochés de quelques kilomètres que c'est super. Puis tu fais des rencontres. Bon, c'est vraiment très éphémère pour le coup. Nous, ça nous est arrivé une fois avec. Bah, c'était une Française qui voyageait toute seule, où on a voyagé 2 jours ensemble. Parce qu'on avait sympathisé. Mais voilà, ça permet d'avoir d'autres discussions. Comme tu dis, là, de rencontrer des gens qui ont aussi des parcours de vie assez atypiques. Et en fait, moi, j'ai continué à en prendre en stop après en France, ou BlaBlaCar,
Eh
tu
ben
vois.
ouais,
Et je me rends
carrément.
compte que c'est toujours des personnes qui, justement, ne te ressemblent pas. Enfin, souvent. Parce que tu t'entoures quand même de personnes qui pensent un peu comme toi, qui ont un peu le même rythme de vie. Et là,
Ah,
tu
c'est
tombes sur
intéressant ce que tu
des
dis.
gars qui ont des parcours complètement loufoques à tes yeux parce que ça, t'as pas l'habitude. Ils n'ont pas fait les mêmes études que toi, ils n'ont pas vécu dans la même ville, on n'a pas du tout la même famille. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de discuter avec des gens qui ont un parcours complètement différent du tien.
C'est ça en fait, j'aime bien ce que tu dis, c'est que mécaniquement en fait, tu vas te retrouver à parler avec des gens qui dans ta vie quotidienne, de la façon dont tu l'as sculpté et de la façon dont tu t'es entouré, ça te serait quasiment pas arrivé en fait de prendre le temps, un moment vraiment posé, de discuter profondément avec quelqu'un qui est pas du tout comme tu dis dans le même lifestyle ou le même état d'esprit ou qui a pas pris les mêmes décisions ou même niveau social. Et le voyage ça remet un peu tout à plat en fait, ça remet vraiment ce côté genre on est là au même endroit, au même moment, viens on discute. Et enfin, qui tais-toi, qui je suis, où tu vas et qu'est-ce qu'on fait. Et ça donne vraiment des richesses parce que, ben, on va pas se le cacher, hein, la richesse, ça vient aussi de la mixité, ça vient aussi du mélange, ça vient aussi d'un effet de vase communicant, donc de culture, de savoir, de réflexion. Et ça, de te retrouver, ben voilà, dans un van. Allez, on a 300 bornes. Ah ben, t'as intérêt à me raconter ta vie, je vais te dire, hein, parce que là, sinon, on va se faire chier. Et
C'est exactement ça.
c'est ça, mais bien sûr, bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, là, puisqu'on parlait de l'aspect des rencontres, Qu'est-ce que ça, toi, ça t'a apporté vraiment ce voyage? Tu vois, où tu dis, bah, grâce à ça, je sais aujourd'hui que.
Alors, c'est grâce à ça, bah, déjà, quand tu pars en voyage, tu n'es plus identifié par rapport à ton métier. C'est vraiment un truc que je me suis rendu compte. C'est pas la première question qu'on te pose. Alors que là, quand tu rencontres des gens dans ton quotidien, ça, après ton prénom, on te demande quasiment tout de suite qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. C'est vrai. Hein. Et du coup, quand tu es en voyage, bah, avant ces questions, tu as déjà d'où tu viens. Donc, tu deviens une nationalité. Avant de savoir quoi que ce soit d'autre, souvent c'était ça. Ah, tu t'appelles comment? Ah, et vous venez d'où? Et vous allez faire quoi? Et voilà. Et du coup, vraiment, ça, je me suis dit, c'est bien parce que quand on est rentré, nous, c'était assez violent dans le sens où on nous a dit, bon, maintenant, du coup, vous faites quoi? J'atterris déjà.
Bah déjà, moi, je suis français. tu reprends le truc, voilà. Je suis français, je suis en road trip, je viens de finir.
Ouais, et tu veux pas que je te raconte mon voyage d'abord? Non, voilà, donc ça, je me suis dit, c'est bien. T'es pas obligé d'avoir un job pour avoir une identité.
Ça,
j'ai trouvé ça chouette.
Et surtout, ce qui est assez fou, c'est que, comme tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À la base, c'est pas connoté métier, en fait. Tu peux dire, bah, en fait, moi, je suis fan de kite. Mais en fait, c'est inconsciemment, tu te définis par ton métier. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi dans le voyage, comme tu dis, c'est qu'à un moment, ton métier, bah, déjà, si t'es en voyage, c'est que t'en as plus. Ou en tout cas, pour le moment, tu vois, où il est en pause. Et bah finalement, tu vas chercher un peu à la racine de qui tu es. Donc, ça va être, comme tu dis, c'est ta nationalité, c'est le mouvement que tu as fait récemment ou que tu vas faire, c'est les choses que tu es en train de découvrir et ça fait du bien, je trouve. Tu sais, de se débarrasser de cette carapace. T'es médecin, toi, t'es éboueur, bah viens, on rigole tous ensemble. Ah, en fait, on s'en fout un peu de tout ça.
Ouais, c'est exactement ça. On va plus poser des questions, même personnelles, sur la famille.
Ouais.
Ou alors pourquoi vous êtes venu en Amérique du Sud? Je pense qu'il y a des gens qu'on a rencontrés, il y en a certains qui connaissent plus de choses que des potes à moi, par exemple, parce que on a d'autres discussions en voyage.
Bien sûr. Non, mais en fait, le voyage, c'est une espèce de raccourci émotionnel, dans le sens où tu vas avoir des discussions évidemment tellement intenses avec des gens que tu connais pas et qu'il faudrait en France des années pour atteindre le même niveau de complicité. Parce que tu es sur ce moment présent, parce que tu vis la même chose, il y a un effet de synchronicité de la galaxie, des astres et de l'énergie, ce qui fait que tu vis des choses ultra intenses. Et justement, j'aimerais qu'on arrive à cette thématique. Ça a été quoi les grands moments d'exaltation de ce voyage? Tu sais, j'imagine que tu as des grands moments... d'euphorie, d'épanouissement, d'exaltation qui ont dû t'arriver, ou peut-être des déclics, ça a été lesquels?
Alors, je pense que les moments, finalement, je retiens, c'est marrant, mais c'est les rencontres qu'on a faites. Après, évidemment, tu as typiquement le Salar d'Uyuni en Bolivie. Mais quand tu arrives dans cette région du monde, tu peux que être scotché. Enfin, c'est tellement différent de ce qu'on connaît, nous... en France, enfin, en tout cas de moi, ce que j'avais connu. Et tu te dis, mais et comment ça se fait que la montagne, elle a 14 couleurs différentes et il n'y a pas de filtre là, c'est moi, je vois ça avec mes propres yeux. C'est dingue. tu pars dans le sud Lipez, donc c'est vraiment la partie sud du Bolivie qui est en frontière avec l'Argentine et le Chili. Mais tu as des lagunes vraiment roses, vertes. Des couleurs, enfin ils appellent ça à un moment le désert de Dali, mais c'est t'as l'impression que c'est peint, enfin, c'est impressionnant. Des grands espaces où t'es à 4000 d'altitude à peu près, donc pas beaucoup de végétation, c'est très rocailleux, mais c'est rouge, jaune, orange, t'as des flamants roses, t'as quand même de la vie, t'as des oiseaux, et puis t'as ces mecs, ces Boliviens là, qui eux t'as l'impression que l'altitude ne leur fait rien. Et puis, ils te racontent un peu leur vie, ils conduisent leur petit 4x4 et c'est leur quotidien quoi, de vivre dans ces paysages. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte que c'est un lunaire. Enfin, vraiment, tu as l'impression d'être sur une autre planète quand tu arrives là-bas. C'est vraiment, je pense, le côté paysage qui marque le plus, enfin, toi, qui m'a marqué le plus.
Ouais.
Et puis après, tu as tout le côté autre, Amazonie, où là... Pareil, c'est luxuriant, tu as des espèces que tu n'as jamais vues, je ne saurais même pas te citer par quelle espèce parfois je. Je sais, ah, mais je savais même pas que ça existait, ce truc-là, avec des pattes. D'accord.
Et ça peut me tuer. Ah, d'accord, super.
Non, mais c'est pour le coup, ça vaut le coup de partir avec une agence qui est peut-être un peu plus chère, mais où c'est moins touriste un peu de masse.
Ah, tu veux dire pour aller explorer la jungle amazonienne.
Partir okay. vraiment en petit groupe, parce qu'honnêtement, enfin, si tu y vas tout seul.
Bon, tu fais un quart d'heure.
Oui, pourquoi pas. Non, mais après, tu peux avoir de la chance, hein, je dis pas.
Ou pas.
Mais je conseille pas. Et là, tu pars et en fait, t'es un petit groupe et t'as l'impression d'être dans un zoo. Et tu te rends compte, en fait, que même le guide, parfois, il est là. Oh, mais regardez, il y a un croco et tout. Ah, même lui, il est surpris. Donc, tu te dis, ah, mais on doit vraiment avoir de la chance de voir ces espèces. Et c'est aussi parce qu'on était pas nombreux, je pense. Donc, t'as des agences qui sont un peu plus proches aussi de, on va dire, l'écosystème, à prendre soin un peu de l'environnement. Et donc voilà, ça moi, c'est vraiment l'Amazonie. Quand j'ai découvert comme ça, je me suis pas sentie, tu vois, vraiment la touriste qui va déranger un peu la nature et voilà, juste pour prendre des photos et repartir avec des beaux souvenirs par la tête. D'ailleurs, pour le coup, on prenait pas trop de photos parce que t'es tellement un peu dans l'instant. Et il t'explique tout, même les plantes qui se mangent ou qui t'aident à soigner certaines blessures. C'est gravé dans la tête. Mais,
tu m'étonnes.
Mais c'est ça qui reste le plus fort, finalement.
Bien sûr.
Donc voilà. Et les rencontres, c'est ce qui m'a le plus marqué, moi, dans ce pays, dans ce continent même.
Ouais. Mais c'est ça que tu vois, on part pour des paysages et on revient avec des rencontres. Et c'est ça, en fait. En fait, tu t'as mis un critère de réussite de ton voyage en amont qui est souvent ça. Je veux faire ça, je veux voir ça. Et au final, ce qui en revient est le plus enrichissant, le plus marquant, bah, c'est la rencontre, c'est l'anecdote, c'est la surprise, c'est ce qui va pas. Et c'est ce qui crée ces moments d'exaltation. Et il y a aussi quand même les choses que tu fais, parce que tu as quand même décidé, c'est pendant ce voyage, de commencer à faire des ascensions. Donc on rappelle que la demoiselle qui est en train de nous parler, Fiona, elle a la mucoviscidose, elle a les poumons avec de la colle et du miel à l'intérieur. Donc, autant te dire que la respiration, tu vois, elle se balade pas dans son jardin, quoi. C'est un peu compliqué. Et tu as décidé de faire le wind-up Potosi, qui est à 6000. En fait, c'est quoi qui se passe dans ta tête en te disant, ok, j'ai un point faible, on va dire, j'ai un handicap par rapport à d'autres. Je pars avec, tu vois, avec quelques mètres de retard, on va dire. Mais je veux le faire. Pourquoi tu veux quand même le faire, malgré le fait que ça peut être très, très compliqué?
Bah, déjà, j'adore la montagne. C'est vraiment mon milieu. J'ai toujours grandi par là. Je vois le Mont Blanc depuis toute petite, puisque mes grands-parents habitent en Haute-Savoie et ouais. On fait du ski là-bas. Et c'est bon, bah, quand tu fais de la montagne, c'est souvent le sommet qui t'attire. Non, malgré tout. Donc, en fait, on était en Bolivie depuis pas deux ou trois semaines, et on avait rencontré d'ailleurs deux couples, un totalement anglais, un franco-anglais, avec qui on a bien sympathisé. Et en fait, ils étaient eux aussi en van, et donc du coup, on se suivait un peu sur les étapes. En fait, quand tu arrives en Bolivie, tu te rends compte que tu recroises un peu les mêmes personnes parce qu'on a un peu tous la même direction, on va dire. Et c'est moins des grandes étendues comme en Patagonie où tu peux te perdre un peu plus. Ce qui nous allait bien, nous, parce qu'on avait besoin un peu de social.
Ouais, tu m'étonnes.
Et donc, on est à La Paz avec ces quatre personnes. Et je sais plus, il y en a un qui dit, ah bah, moi, j'aimerais bien tenter l'ascension du Huayna Potosí. Donc, ça fait tilt un peu chez Nico et moi en disant, ah, attends, c'est quoi, ascension de quoi, ce truc?
Rac le nom.
Et voilà, on s'est... Et voilà, et en fait, on s'est un peu penché sur la question. C'est un 6000, mais accessible. Accessible dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir une grosse technique d'alpinisme pour réussir cette ascension. Il faut une bonne condition physique, c'était le principal. L'acclimatation, on l'avait, vu que ça faisait déjà presque trois semaines qu'on vivait à 4000. Bon, après, il faut aller jusqu'à 6000. Hein. Ça peut pas
gagner. Ça pique un peu, tu sais.
Mais voilà, on s'est dit, bon, bah. Si on veut tenter un truc comme ça, en gros, c'est maintenant. Et donc, on part. Donc, sur les six, il y en a trois qui décident de faire un trek pendant trois jours. Et nous trois, donc avec Tim, un Anglais, qui qui décide de tenter l'ascension du Wanapotosi. Donc on cherche une agence. Il y en a plein, en fait, à La Paz, t'as quasiment une rue où t'as des agences qui proposent un peu les mêmes sorties. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Ça nous a coûté, je sais pas, moins de 400 euros, 300 et quelques, en convertissant. Ils te fournissent tout le matos, parce qu'évidemment, on n'était pas parti avec notre combi de ski et tout ça dans notre van.
Oui, parce qu'il y a quand même de la neige sur ce sommet-là.
Ah, oui, bien sûr. La neige, elle était à partir de 5000. Ouais, 5200.
Ce qui n'est pas le cas partout. Moi, j'avais fait le Likankabur au sud de l'Ipèze et il y a zéro neige, même jusqu'à 6000. Donc, c'est vraiment sec.
C'est
quoi.
Vrai. Et le Wanapotosi, tu le vois un peu de La Paz, et c'est vrai que...
Il y a de la gueule.
Dire. Ah ouais,
il me chauffe, il me regarde, il me dit viens.
Il me provoque là. Et bref, on part, et c'est vrai qu'après coup, quand tu repenses aux expéditions que tu peux faire en France, là, ils nous ont juste fait signer une feuille A4, en gros, à vos risques et périls.
Si je meurs, c'est cadeau, quoi. Ouais, voilà.
C'est un peu.
Tu peux me jeter dans le ravin, c'est pas grave.
Ils check même pas si on a une bonne condition physique, typiquement. Donc voilà.
Me confidence, t'inquiète, c'est bon, tu peux venir. Il n'y a pas de problème. Tout marche bien, vas-y, c'est parti.
Ouais, j'ai.
Ah ben, démerde-toi.
Du coup, on part. Ah ouais, on part en voiture, ils nous amènent jusqu'au base camp qui était à un peu moins 4006, je pense.
Ouais.
Donc déjà, t'arrives dans un truc, c'est hyper rustique. Il y a quatre murs en pierre et en bois. T'as pas de chauffage. Bon, la chaleur, comme on est plusieurs à dormir dedans, ça va. Puis ils nous ont quand même filé du matos en termes de fringues, qui allait bien pour l'altitude. Tu manges alors que t'as pas vraiment faim. Mais voilà, tu manges des soupes, de la patate. Puis en fait, c'est parti pour 3 jours. Nous, on avait pris l'option 3 jours. Tu peux le faire en 2 jours aussi. On s'est dit, bon, allez, 3 jours, ça sera quand même pas mal pour essayer de réussir le sommet. Première journée, tu as une initiation escalade sur glace.
Ah, ouais, bah ouais.
Qui s'est avéré être quand même... on était à 4800, 4900. Donc, quand tu es sur ton truc, tu fais... En fait, là, on est à l'altitude du Mont-Blanc. C'est un truc de fou. Moi, j'étais jamais montée si haut. Jamais. Le plus haut que j'avais fait, en France, tu vois, c'est quoi ? Tu peux faire des sommets à 3500, 3800 si tu vas à l'Aiguille du Midi à Chamonix, mais tu y vas sans effort. Là, je me retrouvais à 4800 à essayer de gravir un mur de glace avec un piolet dans chaque main. Rien que ça, tu te dis, oh putain, c'est dingue.
Ouais, grave.
C'est dingue. Et là, tu te rends compte que c'est hyper dur d'ailleurs. Ouais. J'ai pas de force dans les bras et je plante mon piolet, je vais. Ok, allez, je reprends. Et voilà. Donc, du coup, c'était un peu l'initiation. Sympa. Le lendemain, on part pour le High Camp, qui était à 5200. Donc, moi, je pars le matin en me disant, bon, je vais voir ce qui se passe. Je suis jamais allée si haut. Je vais devoir marcher. On avait un sac. J'en étais chargée comme des mules.
Ah ouais ?
Tout engoncé dans les pantalons, les vestes, les énormes chaussures. Ouais. Rien que le matos, c'est déjà super lourd. Puis tu dois quand même porter tes affaires. Donc voilà. Et puis je pars super bien, en forme. J'avais même envie d'aller plus vite que ceux qui étaient devant. Nico, il m'a dit
calme-toi.
Calme-toi. Il faut quand même monter là-haut. On se détend. Et en effet, j'ai fini, je pense, la dernière. En mode, je fais un pas. Je respire. Je fais un pas. Je respire. Et donc petit à petit, j'atteins le high camp. Trop contente. Essoufflée, mais. Ça va, enfin, tu vois, vraiment me dire, vas-y, je respire, je sens tous mes membres, ça va quoi.
Ouais.
Faire une phrase sans m'arrêter pour respirer, je pouvais pas. Tu sentais que, tu vois, chaque effort était vraiment plus dur, tes jambes étaient plus lourdes. Mais bon, tout le monde, donc, tu te dis, bon, ça va.
Ah, c'est ça que j'allais dire. Tu te sentais finalement à ce moment-là encore au même niveau physique, ou tu sentais que toi c'était quand même plus compliqué ?
Physique, oui. Niveau respirant, je voyais que j'avais besoin de plus de temps pour récupérer, ouais. Mais en soi, physiquement, je me sentais plutôt bien, vois, musculairement. Je me suis dit le lendemain, feu, allez, on tente le sommet.
Ouais.
Et du coup, tu te lèves à minuit, tu manges un truc.
J'adore.
Oui, voilà.
Tu te lèves à minuit.
C'est ça. En fait, tu pars de nuit avec la frontale et... Là, pour le coup, il y avait quand même plusieurs refuges, donc on était au final pas mal de monde. Et moi, je pars un peu au milieu, tu arrives au pied du glacier, donc là, hop, tu mets les crampons, tu arrives dans la neige, et du coup, tu sais que tout le reste, c'est marcher dans la neige. C'est là que ça commence un peu à se compliquer. Et en plus, moi, je sais pas, il y avait un passage avec c'était un peu un single, tu vois, donc tu sais que si tu t'arrêtes, bah tout le monde derrière attend que tu partes. Donc je suis un peu mis la pression en mode, allez, t'arrêtes pas,
Ah.
va jusqu'au pied du glacier et après tu récupères et voilà. Et je me rappelle très bien d'être arrivée à cet endroit en faisant, putain, je suis cuite quoi, ça m'a crevé ces 200 mètres de dénivelé. Et bon, je me dis, bon, bah, il me reste quand même 800 mètres de dénivelé à faire.
De dénivelé
J'y suis pas
positif,
encore.
ouais. Ouais, puis en
J'y suis pas
général, c'est pas
encore.
les premiers mètres qui sont enfin, les derniers mètres qui sont les plus
Non.
faciles, hein.
Ouais, c'est ça.
Hein? Mais
Donc,
ça
du
va,
coup, on
moi,
laisse
Hubert.
partir pas mal de cordées, puis nous, on avance petit à petit. On se fait doubler au fur et à mesure. Et puis, tu vois, du coup, toute cette guirlande de lampes frontales. Là, pour le coup, c'était vraiment à la file indienne, tu vois. Et à la fois, je me dis, oh, c'est beau. Et à la fois, je me dis, oh, putain, faut aller jusqu'à là-bas. C'est quand t'es dans la nuit
Parce
noire,
qu'en fait,
tu
tu
vois
vois, ça traçait le trajet, en fait.
pas. Complètement. Ah oui, tu vois exactement où est-ce que tu vas passer. Et bref, on monte, et vraiment, je marche. C'est vraiment pas après pas. Là, pour le coup, je pense à rien d'autre qu'à essayer de faire un pas de plus. Respirer. On était trois, du coup, le guide était devant et Nico était derrière. Et au bout d'un moment, il me dit, non, mais Fio, faut que ça reste un plaisir. Hein. Là, c'est pas grave, on fait demi-tour. C'est déjà super ce que tu as fait. Et je dis, non, 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 moi je veux continuer. En plus, il faisait nuit. Je dis, ah, j'aimerais au moins voir où je suis, quoi. C'est con d'être monté si haut
Mais
et
attends, je me
de
suis
même
fait
pas
chier
voir
pour
le
être. J'ai
paysage,
l'impression que je suis. Voilà, je suis dans mon salon, c'est bon quoi. Avec de la neige, merci.
Enfin bref, donc on continue un peu et on arrive sur un espèce de plateforme faux plat et tu vois qu'il reste un dernier mur avant d'atteindre le sommet. Et là, j'avoue, ça fait déjà un petit moment, je me disais, putain, vivement qu'on arrive, là, je commence à
Mais
caner.
t'avais pas tu sais, ce moment un peu de peut-être de panique, parce que vu que tu respires, déjà, moi je sais, là-bas, à 5-6 000, on respire pas bien du tout. Enfin, t'as l'impression de respirer dans un ballon, dans un sac plastique, y a pas d'air. Mais toi, ça veut dire que toi, tu respirais dans une pipette. Enfin, genre, t'as pas eu ce
C'est
moment
marrant que tu
d'asphyxie, de se dire, je
ah.
n'arrive pas à reprendre mon souffle, en fait. Non? Si?
Si, bah c'est clairement ça qui m'a fait poser la question de m'arrêter ou pas. Mais c'est marrant que tu dises on a l'impression de respirer dans une pipette. Ma kiné, elle me disait que pour essayer de ressentir comment nous, les patients, on respirait, elle s'était mis une sangle pour enfin, resserrer un peu la cage thoracique et respirer dans une paille en montant des escaliers. Et elle me dit, je crois que même ça, c'est pas exactement ce que vous ressentez,
Attends, c'est à
pour
ce
te donner.
point-là, sans déconner?
Après, ça dépend de ton atteinte
Ouais, mais si t'es un peu atteint
niveau
d'un
respi, et
mucoviscidose,
c'est
tu
sûr.
respires avec une paille, quoi.
Ouais,
C'est.
ouais, ouais.
Oh!
Ah, mais c'est pour ça que tu t'essouffles beaucoup plus
T'es
vite
en train de me
et.
dire que t'as monté un volcan à 6 000 mètres en respirant à travers une paille. Dit comme
Bah.
ça a de la gueule quand même.
Ça, ouais, non, c'est vrai que ça.
C'est
Non,
un
mais
peu badass.
je mesure un peu ce que j'ai fait parce que moi, je me compare qu'à des gens, finalement, qui font
Qui
partie
respire avec la bouche,
d'expéditions. Donc,
qui respire avec une
oui.
bouche, effectivement. C'est.
Et des narines, parfois.
Et des narines. Toi, c'est qu'une paille, donc c'est chiant quand même. Attends.
Enfin bref, on arrive sur cette plateforme et là, on croise un couple avec qui on avait sympathisé dans les refuges avant. Et en fait, elle était prise d'un mal aigu des montagnes
Merde, ouais, mal
assez
d'altitude.
puissant.
Ouais.
Ouais, le mal d'altitude où ça faisait apparemment 1 heure qu'ils étaient assis là. Elle vomissait comme pas possible. Elle espérait se calmer pour pouvoir essayer de faire l'ascension finale. Et son mec à côté, qui était partagé entre bon, bah, j'ai quand même envie d'y aller, puis bon, t'es super mal, on redescend. Et en fait, voilà, j'ai vu leur situation et je me suis dit, allez, saisis l'opportunité, tu redescends avec la fille. Et comme ça permet à Nico de monter. Parce que
Ah,
bon, lui, il était en mode
génial!
croisière, tu vois.
Ouais.
Et en fait, quand t'es en cordée, s'il y en a un qui descend, enfin, qui peut plus, tout le monde redescend.
Ouais.
Tu vois, t'as un peu cette responsabilité aussi. Bah
Wow.
voilà, tu pénalises un peu tout le monde
Ouais,
si
ouais.
t'arrives pas à faire le truc.
Et c'est
Donc
ce que
là,
t'as
c'était
fait?
l'opportunité. Ouais, du coup, c'est ce qu'on a fait. Wow. J'en ai parlé vite fait à Nico, je lui dis, bon, bah, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah, c'est toi qui me dis. Si
Nico,
tu penses
c'est un
que.
Bon gars. C'est un bon gars.
Bah, il voulait redescendre. Il me dit, attends, bah, tu vas pas te foutre dans le rouge. On est quand même. On vit un truc de fou là, en Amérique du Sud. C'est pas pour que tu finisses à l'hôpital. C'est pas le but, quoi. Ça reste qu'une montagne. C'est vrai, hein, faut remettre les choses un peu dans le contexte.
Bien
hein.
Sûr.
C'est juste que moi, je m'étais dit. Oh, je ne sais même pas si une personne atteinte de muco était allée si haut, tu vois. Non, je me dis, oh là là, j'aimerais voir ce que ça fait. Et puis, c'est surtout pour le challenge.
Bien sûr.
J'aime bien ça. Mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, bon, je suis vraiment... Je sais que je tape dans les réserves, là, que je ne suis pas encore arrivée et qu'après, il faut que tu fasses toute la descente.
Bien sûr.
Quand même. Tu vois, non, y a ça.
En fait, je trouve ce geste, il est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, tu es parti pour toi pour challenger. Et en fait, à la fin, tu as passé le relais. C'est un acte de générosité que je trouve incroyable parce que tu aurais pu tester, tu aurais pu aller chercher. Et en fait, tu as quand même pensé aussi à ton petit Nico, qui a l'air d'être bien sympa. Et surtout, tu as pensé à la nana qui avait peut-être besoin d'un lift vers le bas et que la personne avait, enfin, son mec à elle, il aurait bien aimé aller en haut. Enfin, c'est super généreux. Je trouve que l'histoire, elle est encore plus belle comme ça.
J'ai pris la décision assez vite. Même si, bon, c'était un peu à contre-cœur, parce
bien
que
sûr.
J'aurais bien aimé tenter.
Forcément.
Mais tu vois, même le guide qui était avec nous, tout le long du truc, il était là à montrer sa montre. Bon, il faudrait qu'on accélère, parce qu'il fallait que tu arrives avant une certaine heure au sommet, par rapport à la neige qui se transforme et au risque un peu d'éboulement. Enfin, voilà. C'était un peu ça, le timing. Il y avait un timing à respecter. Donc, il fallait que tu sois au sommet. Le lever du soleil, c'était pas mal, ou vraiment matinée, début de matinée. Et moi, tu vois, le lever du soleil, il se levait et j'étais à ce niveau-là. Donc, il restait... Je ne sais même pas trop te dire parce que, tu sais, là-bas, ils n'ont pas de montre avec l'altitude pour te dire « Oh, tu es en 5938 mètres !» Alors, le gars, il dit à peu près, mais il sait pas. Je sais que j'étais presque 6000, mais j'y étais pas. Donc, on va dire, pour l'histoire, presque 6000.
Oh, non, mais t'inquiète, mais voilà. Hein. 100 mètres près...
Et là, oui, c'est clair. Moi, 100 mètres près, à cette altitude, même 10 mètres, tu dis
ouais, « Ouais, c'est du taf. »
Mais voilà, le guide, quand je lui dis, bon, bah, je pense que je vais descendre avec l'autre cordée, il me dit, ah bon? Bah, pourquoi? Je lui dis, mais c'est une blague, il m'a pas encouragé de toute l'ascension, et là, je lui dis ça, il me dit, oh bon, je pensais que t'allais aller au sommet.
Enfin, et là, bref, tu lui dis, attends, tiens, prends ma paille et respire avec, revois ce que ça fait maintenant, 2 secondes là. Vas-y.
Ouais, tu vois, j'avais essayé de leur expliquer, mais bon, ça leur parle pas du tout. Ouais.
Il t'a dit, prends de la feuille de coca, il t'a dit, tout ira bien.
Ah bah écoute, ça par contre, on a carburé maté de coca, on en a bu.
Ah même, tu l'as pas prise,
les
boules de coca dans la bouche, non? De feuilles de coca, non?
Ah
moi,
attends,
c'était génial.
J'avais déjà du mal à respirer, alors si en plus je mettais du truc dedans, là, j'étouffais avec les feuilles.
Ah,
non, par contre,
on
s'est fait des infusions. On s'est fait des infusions de ça sur les 3 jours, là. C'était vraiment notre boisson. Je pense que ça a aidé. Hein,
franchement, en Bolivie, j'ai carburé à ça. Moi, j'ai carburé à ça dans tous les,
ouais.
Dans mon trek dans la jungle amazonienne. Ça te garde en forme, ça te booste pas, mais ça te garde dans un esprit où t'as pas trop faim, trop froid, trop tout ça. Le mal de l'altitude, ça gère bien.
Ouais,
t'es bien en fait. Tout le monde pense que ça te dope, et que t'es comme ça. Non, pas du tout en fait. Ça te garde dans un état naturel et normal, dans un état où tu devrais, dans des conditions, tu devrais pas trop l'être en fait. C'est ça. Mais t'es pas.
Non, ouais, ça te maintient un peu éveillé, puis t'as moins de sensations de fatigue,
même
de faim d'ailleurs.
C'est ça.
Enfin voilà, donc du coup, je suis redescendue avec elle et c'est dingue parce que tu changes la cordée, donc tu les vois partir, puis toi tu redescends et tu fais 100 mètres, je te mens pas, tu fais 100 mètres, tu fais, attendez, en fait, je suis super bien là, je vais remonter là, là ça y est, je comprends pas pourquoi j'ai pris cette décision. C'est fou, tu commences à descendre. Bah, j'étais quasiment plus essoufflée. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais quand je voyais l'autre qui faisait 3 pas, qui tombait parce qu'elle avait plus de force, je me suis dit, mais en fait, oui, elle doit descendre, mais moi, en fait, je suis bien. Bon, je pense que j'aurais fait les 100 mètres dans l'autre sens, je me serais dit,
non. Non, mais autant pour moi.
Redescends.
Autant pour moi.
Je me suis trompée. Non, puis en plus, tu vois, dans la descente, on a dû s'arrêter parce que fallait qu'on s'assoie, on avait plus de force, et c'est là où je me suis dit, bon. J'ai quand même bien tapé dans la bête. Parce que
c'est pas rien.
La descente, pourtant, j'aime bien ça. Tu vois, d'habitude, je suis plus en mode trottine. On descend, on a fait le sommet, c'est le plus dur. J'ai plutôt une bonne descente. Et Et là, j'étais cuite, en fait. On est arrivé au refuge. Je me suis mis dans le petit lit dans lequel j'avais fait une sieste, plutôt qu'une nuit. J'ai pioncé dans la seconde qui a suivi. Et je me suis réveillée quand les
2 jours
autres
plus tard.
redescendaient.
2 jours plus tard. Je fais, merde, on est où?
Mais j'ai dû dormir 2 heures, mais même 3, mais instantanément, quoi. J'ai posé la tête et après, on est redescendu tous au base camp, on est retourné à la capitale et là, on a redormi parce qu'on était quand même vraiment HS.
Tu
Tu
m'étonnes.
remanges, tu te recouches, puis après, c'est reparti, hein. Voilà,
Ah, tu
on
m'étonnes.
continue.
C'est.
On a vécu un truc de fou.
Ah,
T'as
tu
l'impression
m'étonnes.
d'être parti, mais loin, longtemps. Alors qu'en fait, t'es parti 3 jours. Mais t'as tellement vécu des trucs hyper intenses en petit comité. Ça crée des liens aussi. C'est l'impression que les gens, c'est ta famille. Tu veux que tout le monde y arrive.
Ouais, c'est
T'as un
ça.
mélange d'excitation, d'appréhension. Tous ceux qui ont fait un peu des expériences avant, t'as... Ah ouais, alors comment ça s'est passé? T'avais bouffé quoi? Et comment tu fais pour pisser? T'as plein de questions. Tu veux tout savoir.
Attends, on veut savoir comment
Et...
tu fais pour pisser, du coup. Tu fais pas, tu
Ah
fais
bah,
pas, tu fais pas,
écoute,
tu fais?
ah bah, détrompe-toi, parce que tu montes, ça c'est vrai que c'est assez drôle, tu montes de nuit, et quand tu redescends, il fait jour. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, ah mais en fait d'accord, les mecs ils pissent, quasiment, ils se déplacent même pas du chemin en fait.
Elle pisse. Ah
T'avais tout
ouais!
le vomi, t'avais tous les excréments. Tu te dis, ah ouais, sympa, en fait c'est pas mal de monter de nuit.
Ah ouais,
Tu vois pas
carrément!
tout ça.
Ah, il y a tout, il y en a qui peuvent pas
Ah
se
ouais.
retenir avec l'altitude,
Ah ouais,
ça sort de tous les
carrément.
côtés, quoi.
Allez.
Ah ouais!
Avec l'altitude, t'as vraiment le transit accéléré.
Ah
Il y a
ouais,
bah,
d'accord.
Tim, notre pote anglais, mais lui, il est un
Une
warrior. Il a
chiasse!
non,
Non!
mal aigu des montagnes, mais à vomir.
Ah merde!
Et j'étais pas dans sa cordée. Mais il nous a raconté après, mais il a vomi quasiment jusqu'au sommet, mais il a rien
Oh.
lâché. Il n'a pas voulu faire redescendre. Il était avec une autre nana qu'il ne connaissait pas, une petite belge trop sympa, avec qui on a fait un trail d'ailleurs après,
Ouais.
pour remettre un petit
Ça, c'est le
challenge.
côté
Et
macho,
on a
genre,
fini.
si la petite belge elle y arrive, moi je m'en fous, je vais y
Exactement.
arriver.
Et je
Y a
pense
ça, je pense,
que
inconsciemment.
il y a peut-être eu un peu de ça aussi, tu
Ah
vois,
bah
parce
oui.
qu'en plus, c'était lui qui avait parlé du One Up Tozzi, donc tu te dis, ouais, il voulait aller au sommet. Mais quand même, chapeau, parce que se
Oui, puis en
vider et puis
plus,
réussir à faire un effort comme
il
ça.
faut comprendre que le mal de l'altitude, c'est un peu au petit bonheur la chance, en fait. Ça n'a rien à voir avec la
Ouais.
condition physique, c'est comment ton
Exactement.
corps est par rapport à cette condition-là. Enfin, c'est, ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Écoute, Yona,
Ouais,
je pense
c'est
qu'on
splendide
pourrait.
d'expliquer.
Ouais, non, mais c'est ça. Je pense qu'on pourrait parler de ton voyage en Amérique latine encore pendant des heures. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as écrit ton livre À couper le souffle. Mais j'aimerais finir par 3 petites questions. La première, c'est si je te filais, on est sur un stage avec. C'est une conférence sur un peu, tu vois, motivational speaking, tu vois. Sauf qu'en face, l'audience, c'est que des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont un handicap plus ou moins lourd. Et je te passe le micro pendant quelques minutes. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je leur dirais que s'ils ont des projets, pas forcément des rêves, mais rien que des projets de vie, eh ben, il faut les tenter. Ça peut être hyper compliqué et vraiment une organisation de dingue, mais au moins d'essayer de les réaliser, ce sera peut-être pas le projet que tu avais espéré ou imaginé. Ça, c'est presque sûr d'ailleurs. Mais tu reviens, pas forcément d'être parti d'ailleurs, tu reviens de ton projet et ça t'aura forcément apporté quelque chose. Et surtout, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai quand même réussi à le faire à ma manière, à ma façon, et avec mes contraintes. Mais enfin, moi, ce voyage, tu vois, je ne me suis pas posé une seule question en me disant, ouais, mais comme j'ai la muco, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, c'est plutôt, alors, bon, j'ai ça comme contrainte, comment je vais faire pour les intégrer dans mon projet? Et ça, c'est vrai que bah, on s'entoure hein, de personnes qui te conseillent, on cherche les infos. Maintenant, avec tous les moyens de connexion qu'on a, c'est une mine d'or. Hein. Enfin, c'est quand même fou de pouvoir avoir accès à des réponses aussi facilement.
Ouais.
Mais voilà, le voyage que j'ai fait, bah, on l'a fait aussi en fonction de ma condition de santé, mon état d'esprit. Et puis, il y a des lieux qui sont plus appropriés que d'autres. Typiquement les zones humides et chaudes comme l'Amazonie, c'est pas l'idéal quand tu es sensible à des germes, des bactéries,
Ah
parce que
bah
bon,
ouais.
la prolifération
Ah,
bactérienne est un peu
clairement,
plus
bah oui.
fréquente là-bas. Donc moi je voulais quand même voir ce que c'était. Donc tu te dis ok, j'y vais, mais je vais y aller que 3 4 jours. je vais pas passer des semaines dans cet environnement. Ou alors, si tu le fais, bah, c'est en connaissance de cause. Donc, en gros, tu joues. Tu joues, tu gagnes, tu perds, mais tu joues. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que tout est... Enfin, moi, quand on est revenu de ce voyage et que je me suis rendu compte avant de partir que j'ai vraiment galéré à trouver les infos, justement, pour les médocs, pour le passage des frontières, pour le transport, et trouver peut-être des... J'avais regardé aussi les hôpitaux sur place, au cas où j'ai besoin, tu vois, au moins d'avoir des contacts. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je communique là-dessus, parce que, en tout cas, en France, j'ai pas trouvé d'exemple, tu vois, de personne en me disant, oh, bah, je vais l'appeler, je vais lui demander, bah, comment il a fait. Et en fait, j'avais pas cette personne pour me renseigner. Donc voilà, donc c'est aussi grâce à Nico que ce livre a été créé, parce que il m'a poussée aussi à le faire, et voilà, et j'en suis hyper fière de l'avoir tenu dans mes mains pour la première fois la semaine dernière. C'était un petit mois, c'est un travail de plusieurs mois. Et voilà, j'espère que ce qui en ressortira, c'est vraiment un message plutôt d'espoir, d'optimiste. Je veux pas que ce soit larmoyant. Et j'explique que c'est vachement contraignant, qu'on a des heures de soins à faire tous les jours, des dizaines de médicaments à prendre à chaque repas, que oui, ça, c'est une exigence, une rigueur envers soi qui est constante, en fait. Mais voilà, moi, quand j'étais en Amérique du Sud, en van, j'ai pas pris une seule fois de cure d'antibiotiques. Ah si, une fois, parce que j'ai attrapé froid à cause de la clim. Alors que quand je suis en France, je fais 3 à 4 cures par an, surtout l'hiver, quand tu chopes un petit rhume là, qui traîne. Et voilà, et je me suis dit, putain, mais j'étais livrée à moi-même. Je suis partie avec une condition respiratoire que j'ai mesurée avant de partir. J'ai remesuré à mon arrivée. J'étais la même. J'avais pas perdu, j'avais pas gagné, mais j'ai prouvé finalement que c'était possible de faire ça, et c'est pour ça que ce livre existe. C'est juste pour dire, allez-y, quoi, lancez-vous. Et puis si vous avez dit vous partiez un an et finalement vous partiez que 2 mois, on s'en fout.
T'as gagné 2 mois.
Mais ouais, c'est deux mois inoubliables, et c'est un truc que t'as vécu toi. Moi j'étais là-bas, mais c'était la sensation de liberté. T'as plus de contraintes de temps, t'as des contrats à rendre à personne. Tu fais tes soins, bah tu les fais, parce que tu te dis, en fait, c'est ta condition. Si tu veux que ton voyage continue, bah faut que tu ailles bien. C'est un peu la carotte, tu vois. Tu te dis, bon, bah ouais, ok, je vais faire mon aérosol, parce que bah, si de toute façon, si je le fais pas et que je me détériore, bah tu sais ce qui te... c'est retour à la case départ. Donc voilà. Mais voilà, c'est plus. On peut faire des choses un peu hors du commun, sortir de sa zone de confort, sortir de son kiné, de son médecin, de son pharmacien. Et voir ce que ça donne. C'est vachement bien, finalement, de ne pas savoir de quoi est fait son lendemain. Moi, j'ai adoré ça, de te lever le matin, te dire, bon, on va où ? Puis on va rencontrer qui ? Et on va faire quoi ? C'est génial de pouvoir faire ça.
C'est fantastique, même. C'est fantastique, je suis tellement d'accord avec toi. Je l'aurais pas dit, franchement, je pense que c'est ce que je disais. Je pense que ce livre et ce que tu as fait, ça inspire pas que des gens qui ont peut-être une maladie génétique comme toi ou un handicap, ça inspire aussi beaucoup de gens qui n'ont rien, justement, qui vont bien et qui se trouvent toutes les excuses de merde du monde parce qu'au fond, ils ont envie de le réaliser. Et ben, grâce à des exemples comme toi, qui, malgré plein de handicaps, le font quand même, ça va leur dire, attends, il y a un moment, c'est un peu la teon, quoi. Je dirais, un moment, je veux dire, si quand tu as tout pour réussir, tu te donnes même pas un peu de chance pour y arriver, c'est que tu n'as rien compris. Et ça, j'adore. J'aime bien terminer ce podcast par 2 petites questions. Si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le passé et revivre le... un moment de ce voyage de 6 mois en Amérique du Sud, ce serait lequel ?
Ah, je pense quand même que c'est cette ascension, parce que ça...
Alors, ça qui n'est pas cette ascension ? Qui n'est pas cette ascension ?
Mais d'ailleurs... mais d'ailleurs, le moment, finalement, où je choisis, comme tu dis, de pas monter, bah, tu vois, il est hyper présent dans cet état. Je revois tous les visages, je revois le décor. Et en fait, du coup, Nico est monté, et j'ai vu après... qui s'était filmé, et il a fait un petit montage vidéo de cette ascension qui est d'ailleurs disponible sur notre page Facebook Mucos sans frontières. C'est un petit film de dizaines de minutes, et en fait quand je l'ai découvert dans le van après, et En fait, je me suis dit, j'étais là-haut avec lui, tu vois, parce qu'il a fait un. Enfin, il a dit trois mots, mais c'était hyper touchant, justement, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas au sommet. Bah voilà, il avait le t-shirt de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et pff, moi, je me suis dit, bon, j'aurais jamais fait mieux. Donc c'est, en fait, c'est génial qu'il y soit monté. Et moi, j'y suis pas arrivée. Enfin, j'ai appris après que renoncer, c'est pas facile, mais finalement, c'est. C'est pas un échec en fait, parce que moi j'avais vécu un peu comme ça, et d'être descendue, d'avoir fait ça, je me suis dit après en fait c'est déjà ouf
d'être
arrivé à cette altitude.
Mais
avec,
grave.
Et puis voilà, on a vécu des trucs hyper intenses avec des gens dont on en a encore un peu des frissons. Tu sais, quand on parle, tu fais
bien sûr.
Quand t'es là-haut, tu te dis mais surtout qu'on est dans le refuge, tu te dis qu'est-ce que je fous là, je me les caille. J'ai un peu mal au crâne, j'arrive pas à dormir. Les toilettes, c'est dehors, à faire 10 mètres dans le froid la nuit. Mais tu fais, mais pourquoi je fais ça en fait? Et après coup, quand tu redescends, t'as quasiment qu'une envie, c'est de remonter. C'est fou, hein?
Ouais, c'est ça qui est dingue.
Donc voilà, c'est quand même le petit moment, je me dis, où tu testes tes limites aussi. Ouais. Ça, c'est quand même.
Ouais, bon. Je suis d'accord, c'est un bon moment. Je
l'inconnu.
Valide. Je valide.
Je sais pas ce qui va se passer.
Dernière question, si tu devais résumer ce trip en une citation, une phrase de ton choix ou une punchline, ça serait laquelle?
Ah, c'est dur.
Ah, mais bah quand même, petite question un
c'est
peu
vivre à fond.
Ah,
quoi? Vivre à fond.
Vivre à fond.
Ouais, c'est vraiment. Moi, je suis très dans l'instant présent et je me rends compte que c'est génial de vivre comme ça par rapport à d'autres qui sont très cortiqués, qui pensent à plein de trucs, à se projeter. Moi, c'est vraiment vivre l'instant présent. C'est vrai que ça fait bateau de dire ça, mais bon. Moi, c'est vraiment comme ça que je fais ma vie, en fait.
Bien sûr.
Et ne pas avoir de regrets. Surtout, ne pas avoir de regrets.
Génial.
C'est vas-y, puis bon, bah, ça se passe pas comme t'as prévu, tant pis. Mais au moins, t'auras tenté. Voilà, vivre à fond et ne pas avoir de regrets.
Génial, Fiona. Je te remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup pour ton témoignage qui est authentique, qui donne des frissons, qui donne beaucoup d'inspiration et de motivation. Je pensais encore une fois à tout le monde, pas à ceux qui malheureusement peuvent peut-être avoir un handicap ou une maladie génétique comme toi. T'es un exemple incroyable de voilà, ça c'est mon jeu que j'ai eu à la naissance. Bah, je vais essayer d'aller bluffer pour aller remporter le tournoi, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Franchement, c'est merci pour cette aventure dans laquelle tu nous as embarqué pendant un petit peu plus d'une heure. Pour ceux qui veulent s'immerger dans cette aventure et en prendre encore plus de doses d'inspiration et de motivation, eh ben, n'hésitez pas à aller acheter le livre de Fiona, À couper le souffle. Évidemment, le lien est aussi dans la description du podcast. Il y a tout dans la description de ce podcast, c'est fou. Et si vous nous faites des petites dédicaces en story, hein, que peut-être que vous avez écouté ce podcast justement en faisant une ascension, en faisant de l'alpinisme, en faisant votre vaisselle, ça marche aussi. Faites-nous une petite dédicace en story ou en message, ça nous fera toujours très, très plaisir. Fiona, je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Alex.
Ciao, bisous.
Ciao, ciao.